Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manelakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du mardi 7 mai 2024, dont voici d'abord les principaux titres. Arrivée des militaires russes et de Africa Corps au Niger, analyse des implications sécuritaires.
Je crois qu'il n'y a rien de surprenant dans ce qui se passe actuellement au Niger, avec une implication russe qui est effectivement l'héritage de l'implication de Wagner, qui a disparu ou qui s'est plus ou moins effondré.
Le Tchad attend avec impatience les résultats de l'élection présidentielle. Le dépouillement débute au milieu des attentes et des spéculations.
Depuis 6 heures, on est là sur place. Le président des votes et les urnes même là, tout n'est pas mis sur place.
Je ne sais pas ce que nous faisons ici. Beaucoup de gens sont passés pour voter, mais ils n'ont pas pu voter parce qu'ils n'ont pas trouvé une installation adéquate.
La justice française étudie une plainte contre Total Energy pour son rôle présumé dans une attaque au Mozambique. Le président Biden va prononcer un discours axé sur la dénonciation de l'antisémitisme. Israël dit avoir pris le contrôle du côté gazaoui du point de passage de Rafah avec l'Égypte. La Russie convoque l'ambassadeur français à Moscou suite aux propos du président Macron sur l'Ukraine. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. Après l'élection présidentielle de lundi au Tchad, la tension se tourne désormais vers le dépouillement des votes qui a débuté dès la tombée de la nuit. L'Agence nationale de gestion des élections dispose d'au moins 2 semaines pour compiler tous les résultats. André Kodmajigar.
De l'ouverture des bureaux de vote au déploiement, le processus s'est déroulé dans le calme, mais l'on observe un déploiement massif des éléments de la garde présidentielle en début d'après-midi dans les quartiers sud de N'Djamena. Le chef de l'opposition, Amoundou, chef lieu de la province du Logone occidental, capitale économique du Tchad, un incident entre les électeurs a fait un mort par balle, comme en témoigne un habitant qui requiert l'anonymat.
Ce dernier nous a proposé, il a dit en arabe, Kamgous Doroda Gousdagaï, il a enlevé d'abord 5 billets de 10 000. On a dit non, c'est pas l'argent. Il a insisté. On a dit, bon, ok, l'argent, la gardez avec vous. On vient dedans, on va prendre. On veut le faire venir avec l'argent, le filmer et puis montrer. Arrivé juste devant l'entrée maintenant, ils ont commencé par tirer sur nous à des balles réelles. Quelqu'un qui s'est présenté comme citoyen pour le vote s'est succombé suite à une blessure, balle réelle.
Ici, en Djamena, certains présidents des bureaux de vote ont refusé de signer les procès-verbaux et ont même tenté d'emporter les urnes pour procéder au déploiement ailleurs. Mais c'est sans compter avec la détermination de certains électeurs qui sont restés pour contrôler leur vote. Il est difficile pour l'instant de donner les tendances, mais Mohamed Idriss Déby et Dr Succès Masra sont deux favoris de cette élection. André Kodmajigar pour VOA Afrique, N'Djamena.
Le parti au pouvoir au Togo a largement remporté les élections régionales organisées le 29 avril, consolidant la position du président Faure Gnassingbé après une victoire écrasante aux législatives. La formation présidentielle a décroché 137 sièges sur les 179 mis en jeu lors du scrutin régional, selon des résultats provisoires publiés lundi par la CENI. Les partis d'opposition ont obtenu 39 sièges et les indépendants 3. Selon la commission électorale, la participation a été de 61%. Les résultats doivent encore être confirmés par la Cour constitutionnelle pour les législatives et par la Cour suprême pour les régionales. Par ailleurs, le président Faure Gnassingbé a promulgué lundi la nouvelle constitution instaurant un régime parlementaire. 4 personnes sont mortes dans l'effondrement lundi d'un immeuble en construction à Georges sur la côte sud-africaine. Une 50aine d'ouvriers restent piégés, a annoncé la municipalité dans la soirée. Une équipe de travaux de 75 personnes se trouvait sur le site au moment de l'effondrement de cet immeuble en construction. Les opérations de secours devaient se poursuivre. La justice française a demandé des observations complémentaires avant de prendre une décision concernant une plainte pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger déposée contre Total Energy. Cette plainte a été déposée par des survivants ou des proches de victimes d'une attaque djihadiste survenue à Palma, au Mozambique, en mars 2021. Dividico.
après avoir recueilli les observations de Total Energy qui menait un méga projet gazier dans la région et celle des plaignants, le parquet appréciera l'opportunité d'une poursuite, d'un classement ou d'investigation plus poussée, a ajouté le parquet de Nanterre. Ses victimes, 3 survivants et 4 proches de nationalité sud-africaine et britannique, accusent le groupe de ne pas avoir assuré la sécurité de ses sous-traitants. Sollicité, Total Energy a renvoyé à un communiqué de presse publié en octobre 2023 au moment du dépôt de plainte, rejetant les accusations. L'attaque de Palma dans la province du Cabo Delgado, revendiquée par le groupe État islamique, avait débuté le 24 mars 2021, fait un nombre indéterminé de victimes parmi la population locale et les sous-traitants du projet. Maputo n'a fait état que d'une trentaine de victimes, mais selon un journaliste indépendant, Alexandre Perry, le bilan s'élève à 1402 civils décédés ou disparus, dont 55 sous-traitants.
Deux frappes de l'armée somalienne avec des drones turcs ont tué en mars dernier 23 civils, dont 14 enfants, a dénoncé ce mardi dans un rapport à Amnesty International, appelant à une enquête pour de possibles crimes de guerre. Selon des habitants interrogés par Amnesty, les frappes de drones faisaient suite à d'intenses combats au sol entre les islamistes Shebab et les forces de sécurité somaliennes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a convoqué l'ambassadeur français à Moscou lundi pour exprimer son mécontentement à propos de la politique qu'elle qualifie de provocatrice de Paris concernant le conflit en Ukraine. Cela fait suite aux déclarations répétées du président français Emmanuel Macron sur la possibilité d'un déploiement de troupes occidentales en Ukraine. Rosine Mounezero.
Du fait des déclarations de plus en plus belliqueuses des autorités françaises et de la réception d'informations faisant état d'une implication grandissante de la France dans le conflit autour de l'Ukraine, l'ambassadeur de France, Pierre Lévy, a été convoqué, a indiqué dans un communiqué la diplomatie russe. Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire The Economist, publié jeudi, Emmanuel Macron a assumé sa position sur le possible envoi de troupes en Ukraine. Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait légitimement se poser la question, a dit le président français. Il avait créé la controverse fin février en affirmant que l'envoi de forces armées occidentales sur le sol ukrainien ne devait pas être exclu à l'avenir. La Russie a annoncé lundi la tenue prochaine d'exercices nucléaires près de l'Ukraine en réaction à des menaces proférées, selon elle, par des dirigeants occidentaux. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a précisé qu'il s'agissait de l'intention d'envoyer des contingents armés en Ukraine, c'est-à-dire de placer des soldats de l'OTAN face à l'armée russe.
L'armée israélienne mène d'intenses bombardements mardi à Rafah, dans le sud de Gaza, afin d'accentuer la pression sur le Hamas. De nouveaux pourparlers se tiennent ce mardi au Caire pour tenter d'infléchir un accord de trêve déjà accepté par le Hamas. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle Israël et le Hamas à un effort supplémentaire pour une trêve. Claire Morizibourg.
Des témoins et des sources sécuritaires palestiniennes font état de frappes aériennes tard lundi et tôt mardi, ainsi que d'intenses tirs d'artillerie à travers la bande de Gaza et plus particulièrement à Rafah et ses environs. L'hôpital koweïtien de Rafah a dit avoir reçu 11 morts et des dizaines de blessés dans ces frappes. Hier soir, le Hamas a dit approuver un accord de cessez-le-feu avec Israël, mais cette proposition est loin des exigences israéliennes, a rétorqué le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le cabinet de guerre a décidé à l'unanimité de poursuivre l'opération à Rafah afin d'exercer une pression militaire sur le Hamas dans le but de progresser vers la libération des otages. Washington réaffirme son opposition à une offensive israélienne à Rafah. Le président américain a réitéré sa position claire à Benjamin Netanyahou lors d'un appel téléphonique lundi matin, a indiqué la Maison-Blanche. Le Qatar a annoncé l'envoi ce matin d'une délégation au Caire pour relancer les négociations indirectes entre les deux parties, avec l'espoir de parvenir à un accord pour un cessez-le-feu immédiat et permanent en échange de prisonniers et d'otages.
L'armée israélienne a annoncé ce mardi avoir pris le contrôle de la partie palestinienne du point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte. Joe Biden doit s'exprimer ce mardi dans une cérémonie de commémoration de l'Holocauste pour traiter l'antisémitisme au moment où la tension demeure sur les campus américains autour d'une vaste mobilisation pro-palestinienne et contre la guerre d'Israël à Gaza. Nombreux étudiants juifs ont pris part à la mobilisation pro-palestinienne contre les actions du gouvernement israélien. Joe Biden va réaffirmer que nous respectons et protégeons le droit fondamentale qu'est la liberté d'expression, mais que l'antisémitisme ne doit être toléré ni sur les campus ni ailleurs, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche. Son adresse au Congrès se fait dans le cadre de la cérémonie annuelle des Jours du Souvenir organisée par le Musée américain de l'Holocauste au Capitole. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, nous retrouvons Alexandrine Rolognon dans 5 minutes écho.
Libération de l'un des deux employés de Kenya Airways, détenu en RDC selon Nairobi. Les deux salariés qui travaillaient au bureau de la compagnie aérienne à Kinshasa avaient été arrêtés le 19 avril par un service de renseignement militaire selon Kenya Airways. La compagnie avait affirmé que la raison de leur arrestation était l'absence de documents douaniers concernant une cargaison. Recul global de 30% des prix mondiaux des engrais sur le premier trimestre 2024. C'est ce qu'indique la dernière édition d'avril du rapport Commodity Market Outlook de la Banque mondiale, repris par l'agence Ecofin. Selon la Banque mondiale, cette tendance des prix s'explique notamment par la réduction des prix du gaz naturel européen et du charbon en Chine, qui ont atteint sur la période sous-revue la moitié de leur prix enregistré un an plus tôt. Le président chinois Xi Jinping a déclaré lundi que la Chine et la France devraient adhérer aux bénéfices mutuels et s'opposer conjointement au découplage et à la rupture des chaînes industrielles et d'approvisionnement. Les deux pays devraient également s'opposer à la construction de murs et de barrières, a déclaré Xi Jinping au président français Emmanuel Macron lors d'une rencontre à Paris.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Basketball Africa League, après un jour de repos hier, la conférence Sahara reprend ce mardi à Dakar au Sénégal.
8 fois de 2 victoires d'affilée, les Rivers Hoopers du Nigeria veulent confirmer face au Tunisien de l'US Monastir qui compte une victoire en 2 matchs. Dans l'autre rencontre, le club hôte l'AS Douane du Sénégal qui a réussi un énorme match dimanche face à Monastir affronte les Rwandais d'APR à la Dakar Arena. Pour rappel, ces 4 équipes sont en lice pour 2 tickets qualificatifs directs pour les play-offs prévus à la fin de ce mois à Kigali, au Rwanda.
En Europe, on connaîtra ce soir Yacouba, le premier qualifié pour la finale de la Ligue des Champions.
Pour rejoindre Wembley et la finale tant convoitée, le Marocain Achraf Hakimi et le Paris Saint-Germain sont dos au mur au Parc des Princes, contraints de renverser une nouvelle fois la situation face à Dortmund. Après le revers du match aller 1-0, les hommes de Luis Enrique devront l'emporter d'au moins un but pour jouer la prolongation, et plus s'ils veulent décrocher une qualification sans passer par les tirs au but, 4 ans après la finale perdue à Lisbonne contre le Bayern Munich. Les Parisiens pourront s'appuyer sur la préparation mentale qui avait fonctionné au tour précédent au vu de leur performance à Barcelone 4-1. Ça sera le dernier match en Ligue des Champions sous les couleurs parisiennes au Parc pour leur superstar Kylian Mbappé.
Et ici en NBA, Dallas prolonge le contrat de Jason Kidd.
Les Mavericks ont prolongé le contrat de leur entraîneur principal, a annoncé la franchise texane. Dans un communiqué, Jason Kidd affiche un bilan de 140 victoires pour 106 défaites en saison régulière à la tête de Dallas depuis son arrivée il y a 3 ans. Le technicien de 51 ans vient de qualifier les Mavs pour les demi-finales de la conférence Ouest contre le surprenant Thunder d'Oklahoma City après avoir écarté les Clippers de Los Angeles 4-2. Au cours d'une carrière de 19 saisons à NBA, l'ancien meneur de jeu intronisé dans Hall of Fame a aidé Dallas à remporter le titre en 2011. Il a aussi fait partie des équipes olympiques américaines médaillées d'or en 2000 et 2008. Grâce à sa réussite avec Dallas, Kidd figurait parmi les candidats potentiels au poste d'entraîneur des Lakers qui ont licencié Darvin Ham vendredi dernier après l'élimination de l'équipe à Denver au premier tour.
La page des sports signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Plus de 8 millions de Tchadiens en âge de voter ont participé à l'élection présidentielle pour choisir parmi 10 candidats en lice, marquant ainsi un pas vers le retour à l'ordre constitutionnel après le décès du maréchal Idriss Déby Itno en avril 2021. Malgré quelques irrégularités et tensions, le vote s'est déroulé dans le calme avec un déploiement massif des forces de sécurité à travers le pays. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena, donne un compte rendu de la situation.
Mohamed Idriss Déby Itno et Dr Succès Massra, deux principaux candidats favoris, ont voté tous ce lundi à la même heure dans leurs QG respectives. C'est pour donner un exemple aux citoyens qui hésitent à accomplir leur devoir civique. Après avoir voté, le candidat de la coalition Tchad Unie, Mohamed Idriss Déby Itno, a déclaré à VOA Afrique qu'il est animé par un double sentiment.
Celui d'avoir accompli mon droit civique, mais surtout celui d'avoir réalisé l'engagement que j'ai pris devant Dieu et le peuple tchadien, celui d'organiser dans le délai accordé les élections qui marqueront le retour à l'ordre constitutionnel. Il revient maintenant au peuple tchadien pour choisir leur président.
Docteur Succès Massra, lui, se réjouit du fait qu'un compromis a été trouvé avec les responsables des institutions chargées d'organiser cette élection au sujet des électeurs qui auront des difficultés à voter.
Je note avec beaucoup d'enthousiasme que pour la première fois là, on vote, Internet n'est pas coupé. C'est déjà un bon signe. Ceux qui ont eu leur nom inscrit sur la liste électorale, ils vont pouvoir avoir l'occasion, y compris de voter, même s'ils n'ont pas l'air. L'important, c'est d'avoir pris leur nom sur la liste électorale. Et même s'ils n'ont pas de pièce d'identité sur eux, ils peuvent, grâce à un témoignage de deux personnes, pouvoir voter. C'est ce que je veux dire.
Mais la situation se complique sur le terrain. Beaucoup d'électeurs, bien qu'étant recensés normalement, font le tour dans les bureaux de vote en vain pour accomplir leurs droits citoyens.
Moi, c'est depuis 6 heures moins que je suis ici. Et même sur les fiches, je n'ai pas mon nom. Et je me suis fait filmer ici, j'ai ma carte avec moi.
Nous sommes arrivés sur le terrain, là où on a fait la carte, et finalement, on ne voit pas nos noms sur la liste, on nous balance de gauche à droite. Voilà ma carte, il n'y a pas mon nom sur la liste.
Depuis 6 heures, on est là sur place, le président des votes et les urnes même là, tout n'est pas mis sur place.
Je ne sais pas ce que nous faisons ici. Beaucoup de gens sont passés pour voter, mais ils n'ont pas pu voter parce qu'ils n'ont pas trouvé une installation adéquate.
On a nos cartes, mais maintenant, ils ont dispersé nos noms. On est tenté de parcourir des kilomètres dans la ville de N'Djamena pour savoir chercher là où on devait avoir nos noms.
4 organisations de la société civile tchadienne qui se mettent en consortium pour former plus de 2000 observateurs nationaux n'ont pas eu leur accréditation. Elles dénoncent le refus délibéré de l'ANCH de leur accréditer pour l'observation de cette élection sous prétexte qu'elles ont soumis la demande hors délai. Majitel Semsevera, l'un des membres de cette plateforme.
Aucune raison ne justifiant ces refus ne leur a été notifiée. Pourtant, elles comptaient déployer 2900 observateurs citoyens déjà formés. Une telle situation constitue une entrave au contrôle citoyen et de la crédibilité, l'intégrité du scrutin.
Les résultats provisoires ne seront pas connus avant 2 semaines. André Kodumajingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
2 avions cargo ont atterri au Niger ce week-end, déployant de nouveaux instructeurs de l'armée russe et du matériel militaire. Africa Corps, considéré comme le successeur de la société paramilitaire russe Wagner en Afrique, a également confirmé son arrivée dans le pays. Par ailleurs, le Pentagone a signalé la présence de soldats russes dans une base des forces aériennes nigériennes où sont également stationnées des troupes américaines près de l'aéroport de Niamey. Pour une analyse de ces derniers développements au Niger, Jacques Aristide s'est entretenu avec le vice-amiral à la retraite français, Patrick Chevalero, consultant international sur les questions de défense et de sécurité.
Je crois qu'il n'y a rien de surprenant dans ce qui se passe actuellement au Niger, avec une implication russe qui est effectivement l'héritage de l'implication de Wagner, qui a disparu ou qui s'était plus ou moins effondré avec la mort de son chef Prigogine, qui avait beaucoup impliqué son organisation dans les États africains. Je ne sais pas s'il s'agit d'un renfort contre la lutte antiterroriste. Moi, ça me semble plutôt être une implication de Moscou en soutien de ce qu'on appelle la sécurité politique d'un certain nombre de régimes en place. C'est actuellement le cas en République centrafricaine, c'est maintenant le cas au Niger, et l'implication de Moscou pourvoyeur de sécurité politique pour les régimes issus du coup d'État au Niger, eh bien, c'est quelque chose qui est assez logique, avec des contreparties naturellement dont Moscou bénéficie, accès aux matières premières notamment. Voilà. Et je pense que la lutte antiterroriste passe tout à fait au second plan pour Moscou, ça n'est pas son objectif. Son objectif, c'est l'accès à un certain nombre de ressources, et puis également une sorte d'escalade horizontale dans le conflit global dans lequel Moscou est engagé avec l'Occident. Une escalade aussi qui sont des zones intéressent un certain nombre de pays occidentaux, en l'occurrence au Sahel, la France, les États-Unis.
Mi-avril, Washington a accepté de retirer du Niger ses plus de 1000 soldats. Quelles vont être les conséquences de ce départ annoncé sur les opérations antiterroristes menées par les troupes américaines dans la région ?
J'ai tendance à penser que les conséquences vont être dommageables parce que l'implication, l'implantation des troupes américaines était un véritable plus pour la lutte antiterroriste, notamment à partir de la base d'Agadez dans le nord du Niger. Donc ça, c'est quelque chose qui va disparaître. Je doute fortement que les Russes substituent des moyens analogues en quantité et en qualité à ceux des Américains. Donc on va avoir un angle mort, je pense, qui va se développer dans la lutte antiterroriste, qui, encore une fois, n'est pas, à mon avis, la priorité première de Moscou au Niger.
Le Pentagone a confirmé la présence de militaires russes dans la base aérienne de Niamey, abritant également des troupes américaines. Pour Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, le déploiement russe ne pose pas de problème significatif. Brièvement, quelle lecture faites-vous de cette situation ?
On s'achemine sans doute pour une période très limitée parce que les Américains vont partir comme ils l'ont annoncé, vraisemblablement, y compris de Niamey. On est donc dans une situation de cohabitation entre les forces russes et les forces américaines. Tout le monde s'observe vraisemblablement. Maintenant, les États-Unis et la Russie ne sont pas en guerre, même si les tensions sont fortes et à bien des égards, des tensions qui sont même supérieures à la période de la guerre froide. Donc on a une situation, je pense, qui est sous contrôle. Les deux protagonistes savent bien qui ne peuvent pas s'engager dans des hostilités ouvertes. Là, pour le coup, on aurait une véritable escalade. Donc, je pense que la situation est gérée. Ce n'est pas un problème phénoménal que d'avoir cette cohabitation sur la base de Niamey. Mais c'est à surveiller, bien sûr.
Patrick Chevalero, vice-président de l'Institut Open Diplomacy et chercheur associé à l'IRIS, l'Institut français des relations internationales et stratégiques, joint à Bordeaux, en France. Bien que le paludisme reste endémique au Kenya et continue de causer des décès, il y a des signes de progrès dans la production locale de médicaments. Selon l'OMS, le Kenya a enregistré environ 5 millions de cas de paludisme et plus de 12 000 décès en 2022, avec une prédominance chez les enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Plus de détails avec Blanche Sanou.
Dans un petit village de Migori, dans l'ouest du Kenya, le chagrin est vif dans la famille de Winnie Akini. Sa sœur Rosabella vient d'être enterrée, un des 5 décès dans cette famille attribué au paludisme. Winnie exprime son angoisse et sa douleur.
C'est incroyablement douloureux pour nous. Le paludisme, une maladie traitable, a coûté la vie à 2 membres de la famille qui n'ont pas pu accéder à un traitement à temps. Comment nous pouvons vaincre le paludisme et mettre un terme à cette maladie et à son impact dévastateur?
Rose Bella, 31 ans, est tombée malade en décembre et a perdu sa grossesse de 5 mois avant de succomber au paludisme. Son fils de 11 ans est le seul survivant de la famille. Widi est désormais sa tutrice. Dans le service de l'hôpital de Kisumu, les patients atteints de paludisme sont alités. Wilson Otieno a été admis à l'hôpital à 3 reprises pour paludisme.
La plupart des établissements publics n'offrent pas exactement les médicaments nécessaires pour éliminer la maladie du parasite, du paludisme, mais dans la plupart des cas, les gens choisissent de se rendre dans des établissements privés où ils obtiendront des médicaments plus rapides et de qualité.
Oswald Omondi, médecin à l'hôpital de Kisumu, souligne la frustration rencontrée tant par le personnel soignant que par les patients en raison de l'indisponibilité des médicaments et de leur coût élevé.
Il existe de nombreux cas où, en tant que professionnel de la santé, vous souhaiterez administrer le médicament de votre choix en première intention, à savoir la tesonate, mais en raison de son indisponibilité ou de son prix tout simplement trop coûteux pour la population la plupart du temps.
L'accès au traitement reste un défi, les hôpitaux publics étant souvent aux prises avec des pénuries de médicaments et les établissements privés exigeant des tarifs exorbitants pour les soins, explique Michael Mungoma, doyen de l'école de pharmacie de l'université Mount Kenya.
Si nous investissons davantage dans la fabrication de médicaments et des médicaments essentiels, y compris les antipaludiques, là où se situe le problème, alors nous serons probablement plus aptes à le résoudre au lieu de dépendre massivement de l'importation de médicaments.
Le Kenya continue de lutter contre le paludisme avec des méthodes traditionnelles telles que la distribution de moustiquaires traités avec des insecticides, la pulvérisation des zones de reproduction et la promotion d'un diagnostic et d'un traitement rapide. Certains progrès ont été réalisés dans la fabrication locale de médicaments essentiels.
Chaque année, la mairie de Washington DC organise un événement culturel d'envergure connu sous le nom de DC Passport, ou la journée portes ouvertes sur les ambassades. Lors de cet événement, les visiteurs parcourent les ambassades pour découvrir les riches cultures des pays représentés, tout en dégustant des plats et des mets traditionnels. Cette occasion unique mêle tourisme et affaires. Georges Léonard Sagno a couvert l'événement pour vous. Suivez son reportage.
Effectivement, c'est sous un ciel gris laissant tomber quelques gouttes de pluie que les portes des ambassades ont été largement ouvertes au public. Un public qui est sorti massivement malgré le temps qui n'était pas du tout clément ce week-end. Kevin Tabuku, un étudiant congolais, a bien voulu réagir face à cette journée culturelle qu'il apprécie bien.
Je viens du Congo, j'aime bien la culture gabonais. Je suis ici pour voir beaucoup comment ça se passe, mais j'ai beaucoup aussi appris pendant les cultures africaines. Et j'ai acquis aussi beaucoup de choses, j'espère que ça va aussi m'aider dans les cultures.
Non loin de là, à Liraitre, nous avons fait une incursion à l'ambassade de Guinée et Mme Kaba Fatoumata, locataire des lieux, a réagi.
L'ambassade de Guinée est ouverte aujourd'hui pour participer à un événement qui est en quelque sorte le Festival international de la culture et qui est organisé chaque année à Washington DC. La Guinée propose les richesses du pays. La Guinée propose la culture du pays et cette année, c'est particulièrement placé sous le thème diplomatie et culture.
À quelques mètres de la Guinée, le GPS nous a conduits sur la célèbre marche sur cette avenue. À ce niveau, le Tchad expose des tableaux d'art. C'est ainsi que M. Anwar Sadat Fatahal Bab, un citoyen tchadien, nous situe sur le bien fondé de cette journée.
Nous avons une exposition de tableaux et les tableaux sont peints d'un grand artiste appelé Edan. Hier, nous avons fait l'exposition et aujourd'hui, ça permet aux uns aux autres de pouvoir entrer dans une ambassade, d'abord un, et de voir qu'est-ce que le Tchad propose à travers son artiste.
Il faut dire qu'à DC Passport, édition 2024, les ambassades des africaines ont démontré la puissance culturelle du continent. Rendez-vous est donc pris pour le 25 mai, date anniversaire de la création de l'Union africaine, pour davantage magnifier l'Afrique, berceau de l'humanité.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Mandakiza à ce micro, Lionel Nomenagahima a assuré la production et la réalisation. À la console, Nashwan Kale. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet loafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.